15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Marion Ruggieri.
Bonjour à tous, bonjour Anissa.
Bonjour Marion,
ça
bonjour
va bien
à tous. Ça va très bien, merci.
Merci d'écouter Europe 1 pour un nouveau numéro d'Il n'y en a pas deux comme elle. Quels sont les dangers, les nouveaux dangers du net? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h. Savez-vous par exemple qu'on peut perdre son emploi à cause d'un mot de travers sur les réseaux sociaux? Que Google sait à peu près tout de nous, mieux que notre conjoint, ce que l'on fait, ce que l'on mange, ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, que nos objets connectés deviennent la cible préférée des hackers de tout poil. Alors que font les sites et les entreprises pour protéger nos données, notre vie privée? Comment se défendre? Quid de ces panoplies anti-espions? On y répond avec deux spécialistes, Christophe David, le rédacteur en chef adjoint du mensuel Capital, qui signe un dossier sur le sujet. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Et Nicolas Arpagian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en cybersécurité, directeur à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Et puis comme d'habitude, on attend vos témoignages sur le sujet. Appelez-nous au 3921, le standard est ouvert. Et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou via Twitter, hashtag P2CE. On écoute vos commentaires et vos questions à la fin de l'émission. On commence par quelques chiffres qui sont fous. 2 milliards, c'est le nombre d'internautes inscrits sur les réseaux sociaux. 30 milliards de contenus sont partagés sur Facebook chaque jour et 250 milliards de photos. 1h30, c'est le temps que passent les Français en moyenne sur les réseaux sociaux par jour. 345, c'est le nombre de menaces de cyberattaques par minute dans le monde. Enfin, en 2015, on compte 13,4 milliards d'objets connectés et ils seront 38,5 milliards en 2020. Et vous, avez-vous peur du net? On écoute vos réactions.
Non, je suis pas tellement vigilant, je suis pas tellement inquiet. Je sais que c'est un problème, mais je m'en préoccupe pas tellement. En fait, j'ai jamais été victime de piratage.
J'ai travaillé pour le ministère de la Défense, donc on est énormément sensibilisé sur les écoutes, sur la traçabilité. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est quelque chose qui est industrialisé maintenant.
C'est quelque chose qui m'inquiète absolument. De l'utilisation de votre identité, de l'utilisation pour faire des paiements, de l'utilisation des données à des fins perverses.
Je suis très prudente effectivement, parce que je sais qu'il y a des risques de piratage et on en a tous, hein. On le sait.
Il faut être vigilant, c'est tout. Savoir ce qu'on met ou non sur Internet. Et puis, tout ce qui est profil réseaux sociaux, de toute façon, je les protège. Moi, je suis déjà allée sur un site, j'avais mis aucune information et j'ai reçu un mail comme quoi j'avais visité cette page. Quoi.
Je pense qu'il faut quand même se limiter à ce qu'on met sur Internet aussi.
On m'a piraté mon Facebook et ils envoient des vidéos de cul aux gens.
Je fais pas du tout attention, peu importe.
Les grandes sociétés qui veulent vraiment avoir tes informations peuvent les avoir d'autres façons. Enfin, si on n'a rien à cacher.
Non, je suis pas très prudent et je sais que je devrais l'être, que ce soit pour mes passwords ou pour tous les dossiers que je mets en ligne sur le cloud, je suis pas très prudent. C'est pas idéal, mais c'est des habitudes à changer, je pense.
Des habitudes à changer, on va en parler. Alors Christophe David, vous avez réalisé un grand dossier sur les dangers du net dans Capital qui fait froid dans le dos. Vous expliquez par exemple comment nous sommes tracés à longueur de journée par les géants du net. Alors on le sait, mais ça fait quand même bien du bien de l'expliquer. Prenons l'exemple de Google. Alors, j'ai lu Google Search, c'est nos recherches et nos intérêts. Google Maps, les lieux que nous visitons, nos trajets. Google Calendar, nos rendez-vous, lieux, dates et interlocuteurs. YouTube, les vidéos regardées, etc. Et Gmail, le contenu de nos mails, les pièces jointes et les destinataires. Vous voulez dire que tous nos mails sont lus?
Pas exactement. En fait, ce qu'on a voulu dire, c'est que quand on parle des dangers du net, on a toujours en tête, évidemment, le hacker qui a vraiment une intention délictueuse, mais on n'a pas forcément conscience que nous, utilisateurs connectés quotidiens, nous sommes des produits. D'ailleurs, c'est une formule connue, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et donc, ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est que chaque fois que vous faites toutes les activités qu'on a évoquées, surfer, utiliser un mail, utiliser
oui,
une appli,
chat, qu'on tweet, qu'on poste une photo, on fournit des données.
En fait, on fournit des données sur soi-même qui ont une valeur marchande. Voilà. Alors, je vous rassure, il n'y a pas 500 millions de petits monsieur Google qui sont derrière un écran en train de lire vos mails. Tout ça est automatisé et robotisé. Néanmoins,
c'est lu par des robots, mais enfin, c'est classé et archivé.
C'est des process automatisés.
Nicolas Arpagian.
Alors, faites un essai si vous avez une boîte Gmail et écrivez « Cher Marion, vous trouverez 6 juin le menu de notre dîner d'hier soir. Si je vous envoie ce message et je ne mets pas de pièce jointe, Google va vous alerter, va vous envoyer un message. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir en disant « C'est bizarre, vous avez dit 6 juin et vous ne mettez pas de pièce jointe. Voulez-vous persister dans cet envoi ?» Ainsi de suite, l'idée étant effectivement que dès lors qu'on est en train d'écrire, il y a un balayage systématique de l'ensemble des communications. Alors effectivement, il s'agit là de mécanisation. C'est pas fait par un individu. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette information, elle est systématiquement contrôlée, en tout cas passée au scan, et surtout que ces données sont stockées. Elles vous sont attribuées, et donc effectivement, elles permettent par touche. C'est un peu un tableau impressionniste qui se dessine à la fin. On dessine votre vraie personnalité. Alors, un des arguments de Google est souvent de dire « j'ai besoin d'avoir l'intégralité de ces moyens de communication de manière à ne pas me tromper dans ce que vous êtes réellement ». C'est-à-dire, si vous avez comme centre d'intérêt les voitures, les jaguars, je sais que quand vous parlez de cela, il ne s'agit pas de l'animal, il s'agit bien du véhicule et de la marque automobile. Donc, l'idée étant de se dire « c'est pas tellement moi pour vous espionner, oh, c'est surtout pour que l'information que je vous adresse, la publicité que je veux, qui va vous cibler, soit le plus personnalisé possible. »
Ça veut dire qu'il faut arrêter de Gmail, en fait.
Alors, ce qui est compliqué, c'est la multiplication des croisements. Vous avez évoqué tous ces services. C'est vrai que si vous avez un téléphone Android, que vous avez une messagerie Gmail, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que vous pouvez accéder d'ailleurs à votre historique et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a une cartographie systématique de vos déplacements avec les lieux, les horaires. Et vous imaginez bien d'ailleurs que
on a regardé ça effectivement avant de faire l'émission.
Quand on le superpose avec celui de vos compagnons du quotidien, effectivement, on peut savoir qui vous avez rencontré, combien de temps et à quel endroit, puisque effectivement, ce sont des recoupements d'informations. Donc c'est vrai que aucun service de renseignement d'un grand pays ne disposait à cette échelle d'un suivi permanent mis à jour par les utilisateurs eux-mêmes.
Alors, comme on le disait, tout ça a des fins publicitaires, hein, c'est pour vendre de la pub, pour faire de nous, parce que nous sommes des cibles publicitaires. Alors, dans Capital, j'ai vu que les agences de pub paient les grands groupes du net pour collecter des données sur nous. Alors, le plus cher, c'est Instagram. Instagram, là, c'est 5,60 € pour faire quoi, Christophe David ?
Instagram, c'est intéressant, c'est-à-dire que on a aussi aujourd'hui des outils de reconnaissance d'image très pointus qui permettent, par exemple, sur Instagram, de faire de l'analyse d'image, c'est-à-dire associer les images qu'on publie, par exemple, de fêtes.
Vous publiez des photos. Si vous avez des lunettes Persol, il y a quelqu'un qui regarde. Vous avez des lunettes Persol, vous aimez tel pantalon, et donc
voilà,
après, vous avez
un verre de champ, je ne citerai pas de marque, etc.
Contrairement à moi.
Eh ben, c'est une info intéressante. Et si on croise ces données-là avec d'autres données sur qui est le compte, etc., ben on a une information qui vaut l'argent. Et donc Instagram vend ça comme Google vend.
Donc le plus cher, c'est Instagram. Ensuite suivent LinkedIn, 4 €. Google, Waze, Facebook, Twitter, Gmail et YouTube. Pourquoi cette hiérarchie?
Alors
Nicolas
après,
Fagion,
ça dépend de la nature des informations. Par exemple, LinkedIn a plutôt une valeur. Pourquoi? Parce que historiquement, LinkedIn est un site d'information professionnelle, plutôt haut de gamme, avec des cadres. Donc évidemment, des gens qui sont davantage solvables et donc représentent un public de choix pour les annonceurs et pour les publicitaires. Plus vous pouvez avoir des informations concernant justement ce qui est idéal, par exemple, dans un réseau comme LinkedIn, c'est que vous avez le cursus académique, la formation qu'a suivi la personne, vous savez ses relations professionnelles, vous avez cela de manière très détaillée. On vous demande même de vous recommander, c'est-à-dire faire en sorte que quelqu'un vienne qualifier l'information, puisque souvent, quand vous ramassez de grandes quantités d'informations, la hantise du collecteur, c'est d'avoir des informations fausses, imprécises, voire totalement justement mensongères. Alors, avec la recommandation, ce sont les tiers qui valident l'information que vous rendez disponible.
Alors là où c'est encore plus précis, le pire, dites-vous, toujours dans ce dossier, c'est que les sites d'e-commerce qu'on utilise de plus en plus pour faire nos courses, ne font parfois rien ou presque pour protéger nos données. C'est-à-dire, vous avez même établi un classement. Alors les 9 sites les plus exigeants sont Apple, Auchan, Allo Resto, Carrefour, Price Minister, eBay, Vente Privée, Darty, Fnac. Et puis, il y a les 9 moins exigeants, parmi eux, des certains sites qu'on connaît, Rue du Commerce, eDiscount, Amazon, Castorama, Showroom Privé. Comment vous avez établi ce classement?
Alors,
quels sont les critères?
On donne la source, c'est une boîte qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Dashlane, qui évidemment vend des solutions de sécurisation, mais néanmoins leurs données sont parfaitement contestables. Bon, là on n'est plus dans le registre de l'exploitation commerciale des données, on est dans le manque de protection du consommateur quand il se rend sur un site du commerce.
Les sites
ou quand
sont
il se rend sur un site de rencontre, on évoquait tout à l'heure le fameux Ashley Madison.
Ashley Madison, qui était un site de relations extra-conjugales, voilà. dont tous les membres ont été outés.
La base a été rendue publique par un pirate qui, effectivement, avait pu montrer...
Avec des situations dramatiques parfois, c'est-à-dire que certains se sont retrouvés, ont vu leur relation extra-conjugale révélée au grand jour, et certains sont...
Ashley Madison, c'est un cas très particulier, étant donné que c'était un site, c'est un site de relations extra-conjugales, c'était son argument commercial et différenciateur. Beaucoup des utilisateurs, mettaient leur adresse mail professionnelle, ce qui est d'autant plus simple pour vérifier qu'il s'agit bien de vraies personnes, puisque d'ailleurs, vous pouvez les valider avec le nom de leur entreprise qui apparaît dans leur email, et donc notamment par exemple avec leur fiche LinkedIn ou Viadeo, c'est facile. Donc
il y avait des membres de divers gouvernements, notamment gouvernement français.
Alors en tout cas de la haute administration mais c'est vrai qu'il est très facile de valider cette base de données parce que les gens ne souhaitant pas manifestement utiliser leur adresse email personnelle qu'ils consultent à leur domicile pour plein de raisons sans doute, ont choisi de mettre leur adresse professionnelle qui permet de les identifier avec encore plus de certitude.
Un mot, Christophe David.
Oui, non, juste pour finir sur cette histoire de mot de passe. Donc, on n'avait pas été jusqu'au bout.
Oui, sur les sites d'e-commerce.
Ce que ça révèle, c'est que par exemple, il y a des sites pour lesquels, a priori, on a une grande confiance, qui tolèrent qu'on fasse 10 tentatives de mot de passe et qu'on échoue à chaque fois, et ils vous laisseront
sans bloquer le compte.
Donc voilà, ça c'est le genre de test qui
a été fait.
Donc
en gros, ça veut dire que n'importe qui peut.
Ça veut dire que des moteurs, on lance des moteurs qui vont faire mouliner des tas de combinaisons. Là, ça passe.
Et que n'importe qui peut rentrer dans vos comptes.
Alors que les comptes sécurisés, au bout de 10 échecs,
Alors justement, on va en parler dans un instant des hackers qui ont de plus en plus de possibilités, de moyens de piller des informations, notamment sur nous. Comment s'en protéger ? On y répond juste après Francis Cabrel. À chaque amour que nous ferons, à tout de suite sur Europe 1.
Marion Ruggieri sur Europe 1, il n'y en a pas deux comme elle.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
Doit-on plus prendre au sérieux les nouveaux dangers du net ? Voilà la question que se pose Marion Ruggieri cet après-midi sur Europe 1 avec ses invités. On y répond avec Christophe David, le rédacteur en chef adjoint du mensuel Capital, qui signe un dossier sur le sujet, et Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité, directeur à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi les hackers, qui sont un peu, pour vous Anissa, les barbes noires du 21e siècle, comme dirait Franck Ferrand, et qui ont mille manières aujourd'hui de piller nos données confidentielles pour, au choix, usurper nos identités, acheter en ligne, piller nos comptes, exiger des rançons, revendre leur butin sur le dark web, l'internet caché. C'est vrai qu'on se croirait dans un film de pirates. Comment font-ils exactement ces hackers pour piller justement nos vies? On l'a vu, il y a des sites d'e-commerce mal protégés, mais il y a aussi de plus en plus d'objets connectés.
Alors en fait, il faut déjà, on rappelle juste le mot hacker, ce qui est réservé, c'est pas forcément une activité délictueuse. J'insiste
exactement,
là-dessus.
Ça peut être aussi des petits.
C'est des gens qui cherchent à comprendre comment fonctionnent les technologies. Donc là, on est vraiment soit dans des pirates ou des délinquants. Donc c'est une autre dimension. Ces pirates, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a soit le vol par opportunité, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé une faille sur un site internet et donc c'est ce site-là qu'ils vont attaquer. C'est-à-dire qu'ils ont rien contre lui, mais il s'avère qu'il a cette faiblesse-là. Ils l'ont identifié, ils la maîtrisent. Donc ça, c'est la première possibilité.
Donc là, sans motif.
En tout cas, non, c'est pas sans motif. Mais il s'avère que c'est la faille qui a désigné la future victime. La deuxième possibilité, c'est vous voulez attaquer vraiment une entreprise, une administration, un collectif, une association, et là, vous allez essayer de faire l'audit, d'essayer de comprendre, soit par un moyen technique, c'est-à-dire trouver la porte d'entrée dans l'architecture, soit éventuellement par les réseaux sociaux, en envoyant un message à un membre de cette organisation, un message qui aura toute l'apparence de l'honnêteté, de la légitimité, et lui envoyer un message contaminé. Alors, également, il faut garder à l'esprit qu'on a également des outils qui sont de plus en plus accessibles au grand public. Il ne faut pas voir le piratage comme étant forcément réservé à des gens très pointus en technique. Prenez un exemple très simple, commencez à écrire sur votre moteur de recherche favori « comment pire », juste ces quelques lettres, et vous verrez toutes les suggestions de Google pour comment pirater un compte Twitter, un compte Facebook, etc. Et donc on voit bien que, d'une part, ça veut dire qu'il y a des outils en français accessibles, écrits en langage simple, et deuxièmement que les internautes les cherchent. Et c'est pour ça que Google les met en avant. Alors, l'idée étant ensuite, une fois qu'on a ces informations, alors ça peut être des données personnelles, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, tous les éléments qui constituent votre identité et qui permettent d'être vendus soit dans des bases de données pour des usages ultérieurs, soit des gens qui vont essayer d'usurper votre identité pour accéder à des droits ça peut être de l'argent qui effectivement gagner de l'argent ou vous porter préjudice. Également, ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être un moyen en attaquant un particulier de rentrer dans son entreprise, parce que effectivement, il a la possibilité, lui en tant qu'individu, vous avez rien contre lui, mais il s'avère qu'il exerce une fonction qui vous intéresse et ça peut rentrer dans. Donc ces outils-là, qui concernent ces smartphones à qui nous confions beaucoup de notre vie personnelle, professionnelle, bah, ils sont détenteurs de plein d'éléments qui peuvent intéresser ces pirates.
Et aussi, il y a les smartphones, mais ai-je lu, donc, il y a aussi la multiplication d'objets connectés. Alors, comme, les montres
qui vont être dans
les... ça peut être aussi un système anti-vol, ça peut être aussi un kit main libre, ça peut être aussi une caméra de surveillance.
Tout à fait. En fait, ce sont des petits outils qui ont été développés pour rendre un service. Mais souvent, la sécurité n'a pas été prise en compte. Pourquoi ? Parce que la sécurité, bah, déjà, c'est une couche de technologie supplémentaire, donc qui vient alourdir le prix de la machine, et le constructeur, le fabricant, bah, lui, il vend des petites caméras simples d'accès à mettre dans votre domicile. Pareil pour effectivement ces montres connectées. Il faut qu'elles échangent beaucoup de données avec leur base, et donc effectivement, ça n'a pas été protégé. Et donc c'est vrai que tous ces outils sont autant de portes d'entrée pour des attaques. Faut garder à l'esprit qu'on n'attaque pas toujours l'endroit que l'on veut viser en priorité. Je m'explique. On a le cas, il y a quelques l'année dernière, de Target, ce grand groupe américain de grande distribution qui s'est fait attaquer. L'entreprise était relativement bien protégée. Le pirate est passé par le sous-traitant en climatisation, celui qui faisait, qui gérait la température des magasins. Pourquoi ? Parce que c'est un sous-traitant de sous-traitant et il était moins protégé. Par contre, il était techniquement connecté au réseau central de l'entreprise et donc c'est par là qu'on est remonté. Il y a toujours ce travail, on parle d'ingénierie sociale, comprendre l'environnement pour trouver le meilleur moyen d'attaquer. On évite d'aller justement en frontal et de s'attaquer à la porte blindée.
Et alors dans le dossier de Capital, j'ai lu qu'il y avait 345 menaces de cyberattaque par minute dans le monde. Ça va de... Alors le choix est vaste, j'ai pris en France, ça va de Domino's Pizza qui s'est fait voler son fichier client, tous les clients français et belges avec toutes les données, au type d'Apple qui se sont fait fourguer des fausses applications, en passant par une PME qui a vu l'intégralité de son argent détourné. Christophe David, les exemples sont nombreux.
Oui, alors principalement, comme l'a dit Nicolas, c'est quand même des objectifs lucratifs, c'est-à-dire de se faire de l'argent. C'est marginalement pour des causes, on va dire, politiques. On parle parfois du activisme, avec au début hacking et activisme, voilà. Il y a des activistes pro-palestiniens, pro-israéliens, il y a des gardiens de la morale, il y a tout ce qu'on veut. Mais globalement, l'essentiel du hacking, ça concerne quand même des objectifs crapuleux et financiers. Bon, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que on pense toujours à des techniques très compliquées, et il y a un truc en ce moment qui préoccupe beaucoup les services de police, c'est ce qu'on appelle le pink call. Alors c'est assez marrant, c'est pas le particulier qui est la victime, c'est l'entreprise. Je vous explique en deux mots, si j'ai le temps.
Très vite.
C'est qu'en fait, ils prennent le contrôle sur la centrale téléphonique et après ils vous font appeler. Donc vous recevez un coup de fil et en fait vous n'arrivez pas à comprendre l'interlocuteur et il vous invite à vous rappeler. Et une fois que vous rappelez, c'est des numéros surtaxés. Voilà. Et donc, ils détournent les numéros surtaxés au dépens à la fois du particulier et aussi de la prétention.
Voilà.
Quand on comprend pas ce qu'on vous dit, il faut pas rappeler.
Alors, que faire quand ça vous arrive à vous, au bureau ou dans le privé? Et comment surtout se protéger de tout ça? On continue de parler des dangers du net. C'est juste après le billet de Benjamin Muller. À tout de suite sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
Et cet après-midi, on s'intéresse aux dangers du net. Comment réagir lorsque l'on est touché? Comment se protéger? Réponse à toutes ces questions dans un instant avec vous, Marion, et vos invités. Mais avant ça, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin.
Bonjour Marion.
Vous allez bien?
Ça va et vous?
Fort bien, merci. Alors vous allez nous démontrer que via le déroulé d'une journée type, aujourd'hui de très nombreuses entreprises ont de très nombreuses informations sur chacun d'entre nous, y compris ici. Benjamin, vous croyez?
J'en sais rien. Alors ça, je sais pas. Bonne question. Je vais prendre l'exemple avec une journée type, par exemple, tiens, la mienne. 7h, 6h, mon réveil sonne. Alors évidemment, c'est mon réveil qui est celui de mon smartphone. Je me fais couler un café, j'allume la radio via l'application de mon téléphone, je bascule le son sur ma chaîne Hi-Fi via le Bluetooth en un seul clic. J'envoie 2 ou 3 mails perso via mon adresse Gmail. Gmail, vous l'avez dit, qui peut donc lire tous vos mails, donc côté intimité, on oublie. J'avance un peu, 8h30, je dépose les enfants à l'école. Évidemment, j'ai mon portable dans ma poche, donc mon smartphone peut me dire au mètre près où je suis passé, à quelle heure je suis parti de chez moi et même précisément combien de pas j'ai fait pour aller de chez moi à l'école. Par exemple, ce matin, vous serez heureuse, Marion, d'apprendre que j'ai fait 320 pas, que je suis parti de chez moi à 8h24 précise, pas un de plus, pour arriver dans la salle de classe. 320 pas, c'est pas très loin, j'ai de la chance. Ensuite, départ pour le boulot. Aujourd'hui, j'ai pris le bus, passe Navigo. La RATP sait donc exactement à quelle heure j'ai pointé, quel trajet j'ai pris. Mais Google est capable de faire mieux. Dans votre historique de position de portable, il est capable de vous dire, par exemple, si vous êtes venu travailler en métro, pour les gens qui habitent Paris ou Lille, par exemple, puisqu'il vous dit que vous êtes venu sous terre, donc à moins d'être une taupe. Si vous êtes venu sous terre, ça veut donc bien dire que vous avez pris le métro. Si vous avez pris la voiture, allez savoir comment. Il le sait que vous êtes venu en voiture, mais tiens, sur la route, je me suis arrêté pour acheter des clopes. Ça aussi, il le sait. Google met un petit point rouge sur la carte du téléphone au niveau du bar PMU Le Poulbo, qui se trouve rue de la Convention, dans le 15e arrondissement de Paris. Donc non, je ne suis pas allé boire un verre de rouge ce matin à 8h37, mais oui, j'ai acheté des cigarettes à 8h37. Comment fait-il pour le savoir? J'en sais rien, mais c'est très fort. Vous allez me dire, c'est juste parce que j'ai un GPS dans mon téléphone. Oui, mais un GPS qui ne me quitte jamais, puisqu'il est dans ma poche. L'expression « le fil à la patte » est donc bien approprié. Je continue, j'arrive à Europe 1, je travaille dur comme tous les jours, mais je prends aussi 5 petites minutes pour aller sur Amazon, commander un cadeau de Noël et voir le prix des machines à laver sur le site de Darty. Du coup, hop là, Apple, Google, les informaticiens d'Europe 1, tout le monde sait ce qui m'a intéressé aujourd'hui. Et je suis tranquille, je vais être envahi de pubs ciblées pour ces produits. Tiens, midi 15, alerte sur mon téléphone qui me rappelle que dans 45 minutes, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Oui, parce que je me suis mis dans mon agenda ce rendez-vous. Précision du message, le chemin le plus rapide pour aller chez ton dentiste, c'est le bus 80, sauf qu'il y a un colis suspect à tel endroit dans Paris. Donc tout est bloqué. Prenez plutôt le métro et partez dans maximum 5 minutes si vous voulez être en retard. Je caricature à peine, mais l'idée est là. Là aussi, mon smartphone me facilite la vie. Mais ai-je vraiment envie que ces grandes entreprises savent quand je vais chez le dentiste, ou imaginons pire, quand je vais chez le médecin, quand je vais chez l'oncologue, si j'ai un cancer? Est-ce que j'ai vraiment envie qu'Apple sache que j'ai un cancer? On continue. C'est sans fin. Alors, pour résumer, il n'est que 13h, mon téléphone sait à quelle heure je me suis levé, ce que j'ai écouté, quel trajet j'ai pris, où j'étais exactement, que je fume, que j'ai une carie, ça ne s'arrête jamais. Alors pour l'instant, toutes ces informations, elles sont essentiellement dans les mains du marché, vous en parliez tout à l'heure, des grandes entreprises de Google et compagnie. La logique n'est donc que commerciale, je suis optimiste, donc je me dis qu'après tout, si Gmail m'envoie des pubs ciblées pour une machine à laver, c'est pas très grave. Mais maintenant, on se demande, est-ce que le jour où ces millions d'informations, si elles arrivent entre les mains de personnes mal intentionnées, par exemple Daesh, mais évidemment pas que, qu'est-ce qui se passe ?
Nicolas Arpagian.
Alors, c'est le problème. Alors, au-delà d'Aïch étant évidemment une situation est violente et extrême, par contre, effectivement, ça vous caractérise. C'est-à-dire que c'est la négation ou la dissolution de la notion de vie privée. Alors, on est quelquefois en train de parler, de considérer que cette vie privée serait maintenant totalement niée. Et donc, on aurait une espèce de cellule minimum qui serait l'intimité de la vie privée. Mais vous l'avez mentionné très vite, votre vie sentimentale, votre orientation sexuelle, votre état de santé, qu'on peut considérer faire partie de effectivement de cette intimité de la vie privée, bah en fait vous n'arrivez pas à la séparer de ce qui est votre vie quotidienne, où vous pourriez estimer que ma foi que le nom du bistrot a peu d'importance. Mais c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est surtout l'exhaustivité de ces données et le fait que elles sont systématiquement mélanger les unes avec les autres.
Ben, c'est-à-dire que c'est quand on regarde tout d'un coup. Là, je regarde ma journée, il y a tout.
C'est voilà, il y a tout, et surtout qu'à un moment, on n'a plus besoin de vous demander votre avis. Avant, les enquêtes d'opinion, pour connaître vos goûts, vos centres d'intérêt, il fallait vous interroger. Avec la faiblesse que vous cachiez certaines choses, vous formuliez peut-être pas très précisément d'autres choses, et bien donc sûr, on avait un tableau qui était un peu flou. Là, la netteté est sans équivalent, et la dissimulation devient quasiment impossible. Et c'est là, elle devient presque suspecte. Et c'est là où c'est problématique de se dire que quelqu'un qui espérerait ou tendrait vers la vie privée, juste un mot, Facebook a même été mis en cause ces dernières semaines à nouveau parce qu'il cartographiait les gens qui n'avaient pas de profil Facebook. Donc effectivement, on voit bien que déjà les utilisateurs qui ne sont pas forcément conscients au moment où ils signent, vous savez, ces petites conditions générales d'utilisation, ce qui dure un certain nombre de pages et que vous ne lisez pas mais que vous ratifiez, que vous signez, effectivement l'idée c'est qu'elle pouvait s'appliquer à des gens qui n'ont jamais voulu être sur Facebook. C'est donc vraiment un modèle de société qu'on interroge là.
Merci Benjamin. Alors comment se protéger de tout ça? On en parle juste après. Carmen de Stromae, prends garde à toi.
Europe 1, 15h, 16h.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Le net peut parfois réserver bien des surprises, pas toujours bonnes. Les nouveaux dangers du net, comment se protéger de ces dangers?
C'est la question du jour, Marion, avec vos invités.
Christophe David, le rédacteur en chef adjoint du mensuel Capital, qui signe un dossier sur le sujet, excellent. Et Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité, directeur à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Alors, dans ce dossier sur les nouveaux dangers du net, vous consacrez un article à ce que l'on dit sur les réseaux sociaux et vous écrivez que de plus en plus d'employeurs virent leurs salariés pour des propos tenus sur Facebook ou Twitter. C'est violent, c'est légal, ça ? Christophe David.
Oui, alors c'est horrible à dire, mais en fait, tant que vous n'avez pas paramétré votre réseau social Facebook pour dire que c'est une conversation privée, elle est considérée comme publique. Et à partir du moment où elle est publique, ben c'est un propos qui peut vous être reproché. Et il y a plein de cas d'employeurs. D'abord, il y a plein de cas de gens qui, c'est souvent comme ça que ça se passe, ils font un commentaire sur le mur d'actualité de leurs copains en disant « Ah oui, t'as raison ».
Celui-là, j'aimerais pas savoir où il était en 40.
Vraiment, telle boîte et moi, je suis bien placé pour le savoir parce que j'y bosse. Bon, sauf que quand vous faites ce commentaire, vous savez pas quel est le réseau d'amis de votre ami. La formule « les amis, mes amis sont mes amis » sur Facebook, c'est pas vrai. Les amis de mes amis peuvent être mes ennemis, voire même mon employeur. Voilà. Et c'est comme ça que souvent ils se font piéger.
Ce que vous disiez, Christophe David, est vrai et pas tout à fait, parce que dans Capital, il y a justement un exemple concret, cette ex-assistante au sein d'un grand cabinet d'assurance qui a écrit sur son compte Facebook « Pourquoi à 7h je suis motivée d'aller bosser et qu'à 9h j'ai envie de partir en courant ?» Son profil était protégé et pourtant elle a été convoquée et elle a été virée. Nicolas Arpagian.
Alors là, en l'espèce, alors j'ai pas le détail de l'affaire précisément, mais globalement, les cas où c'est arrivé, c'est lorsqu'il y a quand même quelqu'un dans le réseau qui l'a transféré et qui l'a porté à la connaissance d'un dirigeant du cabinet, enfin de son employeur. Après, quand il y a un prud'homme, après il y a un conseil de prud'homme. Il y a quand même un conseil de prud'homme s'il y a eu contestation, qui a entériné ou pas le licenciement pour cause réelle et sérieuse. En fait, c'est une atteinte à ce qu'on considère dans le contrat de travail comme étant la base, c'est-à-dire la loyauté vis-à-vis de son employeur. Parce que dès lors que vous dénigrez soit un individu, soit une marque, une entreprise, on considère que vous attentez à cette loyauté à laquelle vous vous êtes engagé en signant votre contrat de travail. Ce qui est certain, c'est que les gens oublient également qui fait partie même de leur réseau d'amis. Parce que lorsque vous êtes sur un LinkedIn ou un Viadeo, où vous avez 200, 300, 400 contacts, pareil sur Facebook, à un moment, de se rappeler que, évidemment, quand votre patron, votre ami ou votre collègue, qui d'ailleurs est devenu votre chef entre-temps, vous a demandé comme ami, comme contact, bah, vous n'alliez pas le refuser, puisqu'à l'époque, vous étiez dans une relation épanouissante et pleine de promesses. Et par contre, vous avez complètement omis que, effectivement, il était parmi toujours les destinataires de vos messages et que quand vous vous lâchez, bah, il en est le premier informé.
Alors, il y a plein d'autres exemples, d'autant que le moindre canal de communication peut vous trahir. Exemple, WhatsApp qui peut vous géolocaliser, Spotify qui dit que vous êtes en train d'écouter les sardines. Enfin, il y en a beaucoup des exemples comme ça qui peuvent vous trahir à longueur de journée.
C'est à chaque fois la notion de trace.
Alors, concrètement, Nicolas Arpagian, quel conseil on peut donner aux auditeurs ? Déjà, pas écouter les sardines sur Spotify en pleine journée.
Mais
ne jamais critiquer sa boîte sur les réseaux.
Alors, effectivement, ça c'est de la prudence, c'est-à-dire de considérer que, effectivement, on pourra toujours avoir quelqu'un, volontairement ou non, qui transférera, portera à la connaissance d'un employeur. Et donc, en tout cas, même si le licenciement, la faute n'est pas systématique, elle n'est pas qualifiée de faute systématiquement, en tout cas, ça fera l'objet d'une discussion, d'une négociation qui sera forcément désagréable. Donc, abstenez-vous. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, garder des emails jetables, c'est-à-dire lorsque vous passez des transactions, lorsque vous rentrez, vous vous inscrivez sur des sites, faites en sorte d'avoir des emails qui ne serviront qu'à cela, qui éviteront en fait que cet identifiant permettent de vous tracer et de retrouver et de recouper. Par exemple, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas avoir les mêmes identifiants et mot de passe pour l'intégralité des services auxquels vous vous inscrivez. Pourquoi ? Parce que celui qui aura trouvé votre mot de passe va les tenter. Alors, il n'y a pas le tenter manuellement, mais ce sont des machines qui, par automatisme, vont faire en sorte de tester le mot de passe qu'ils auront trouvé. C'est pour ça qu'on trouve sur des places de marché des noms, prénoms et identifiants et mots de passe. Ça a une valeur, donc ça, il faut éviter. Deuxième chose, n'hésitez pas quand même à porter plainte, ou en tout cas à faire une démarche. Pourquoi ? Parce que ça va permettre déjà de signaler l'attaque dont vous avez été victime. Il y a un site internet qui s'appelle internet-signalement.gouv.fr. Quand vous avez fait l'objet d'une pratique déloyale, signalez-le. Ça permet de constituer des dossiers et de documenter les modes opératoires, ça c'est très utile.
D'accord. Alors, et vous, qu'en pensez-vous en attendant? Parce que, excusez-moi, j'ai enchaîné un peu. Voilà, juste une dernière petite chose et je m'excuse auprès de mon réalisateur. Il y a aussi dans Capital une panoplie pour ne pas se faire hacker. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis demandé si ça avait vraiment un intérêt ou si c'était vraiment du gadget. Alors, dans cette panoplie, il y a un brouilleur de GPS à 45€. Il y a un détecteur de micro-espions à 200€. Il y a un générateur de bruit blanc à 380€. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Et il y a un disque dur externe blindé à 660€. Avec tout ça, Christophe David, on se protège ?
Oui, alors là, c'était c'est un usage plus professionnel que privé, quoique, hein, on peut imaginer dans une situation de conflit familial, je sais pas quoi, de divorce par exemple, que on souhaite être très prudent sur ces conversations et sur la protection de ces données. Là, par exemple, le disque dur, ça vous permet d'avoir une protection totalement sécurisée de données. Bon, dans un cadre privé ou professionnel, ça peut être très important. Bon, et les montants que vous avez cités font que c'est quand même relativement accessible.
Et vous, qu'en pensez-vous? On attend vos témoignages, vos réactions et vos questions au 3921 ou sur la page Facebook de l'émission et via Twitter, hashtag P2CE. Mais d'abord, on écoute Let It All Go de Birdie et on se retrouve tout de suite sur Europe 1.
Marion Ruggieri, de 15h à 16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
Et tous les jours, juste avant 16h, c'est Il n'y en a pas deux comme vous. Vos questions, vos réactions à cette émission sur les dangers du net, Marion.
Et j'aimerais qu'on prenne en ligne Emmanuel qui nous appelle depuis Authieux sur le Port-Saint-Ouen en Seine-Maritime. Elle a 45 ans. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous venez de vous faire hacker. On vous a volé des données informatiques dans votre ordinateur, c'est bien ça?
Oui, en fait, j'étais connectée sur un site internet d'une marque de jouets électroniques.
Pour enfants, oui.
Le site a été piraté. Et je fais partie donc des clients pour lesquels les données personnelles ont été volées, donc adresse IP, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, réponse à la question secrète et mot de passe.
Est-ce que vous pouvez dire de quelle marque il s'agit de jouets pour enfants?
La marque des jouets VTech.
D'accord. Alors Nicolas Arpajon, qu'est-ce qu'elle risque, Emmanuel, concrètement?
Alors, effectivement, elle est hélas parmi les nombreuses personnes qui ont été piratées à l'occasion de cette interception des données de VTech. Alors, ce qu'il faut qu'elle sache, qu'elle soit très vigilante à partir des jours et des semaines à venir, c'est tous les messages qui vont lui être adressés avec, justement, qui auront la saveur de la réalité. En clair, maintenant qu'on a son nom, son prénom, des éléments personnels, elle risque d'être sollicité par des messages qui auront l'apparence de la réalité,
de la normalité,
puisqu'ils seront,
oui,
effectivement très personnalisés. Mmh. Donc maintenant, si d'aventure elle utilisait cet email et ce même mot de passe et cette même question secrète pour d'autres sites, il faut effectivement l'encourager à les modifier de manière à ce que, on évoquait tout à l'heure, le fait qu'ils ne soient pas réutilisés par essai auprès d'autres grands sites marchands, en se disant après tout, si elle a utilisé ce couple identifiant mot de passe pour ce site-là, elle l'a peut-être fait pour d'autres. Deuxième chose, c'est effectivement par contre de solliciter VTech pour leur dire voilà, je fais partie de cette
qui ont été hackés.
Voilà, qu'est-ce que vous comptez faire et de voir s'il n'y a pas d'ailleurs une opération, ce qu'on appelle une action collective, une action de groupe pour éventuellement voir que les clients français victime de cette attaque, c'est plutôt pour déjà faire en sorte de peut-être se faire indemniser ou de voir la manière dont votre préjudice peut être pris en compte.
Merci Emmanuel, j'espère qu'on a pu répondre à vos interrogations. Alors on a aussi un message de Patrick, 59 ans, qui nous appelle de Sarcelles et qui nous écrit: je suis d'accord avec les intervenants, le grand manque de sécurité sur internet, personne ne s'en occupe pour les particuliers, c'est une atteinte à la liberté, à la vie privée, toutes les sociétés de plus en plus nous obligent à passer par internet et je n'ai pas la fin du message, mais il y a notamment les impôts qui effectivement nous sollicitent de plus en plus sur le sujet.
Parce que évidemment, c'est vu comme étant un élément de facilitation, de réduction des coûts, faut quand même être très clair, on transfère sur l'utilisateur final, le particulier, le contribuable, le fait de remplir un dossier. Avant, quand vous envoyiez un dossier papier, il y avait quelqu'un qu'on payait pour le saisir dans un ordinateur. Ça finissait dans un ordinateur.
Mais
par contre,
tout ça, il y a des dangers aussi.
Effectivement,
là.
D'autant plus que maintenant, on s'aperçoit que les pirates attaquent si un peu comme quand vous voulez attaquer un cambrioler des appartements dans un immeuble, soit vous vous attaquez à chaque immeuble individuellement, soit vous attaquez la loge de concierge, c'est-à-dire celui qui garde les clés de tous les appartements de l'immeuble.
Et c'est ce qui se passe là avec les impôts, c'est ça que vous voulez dire?
Par exemple, avec Gmail Salto, ou avec, qui est une entreprise qui fait de la sécurisation d'infrastructures, enfin d'accès, effectivement, qui s'est fait pirater, parce que une fois que vous avez les clés de celui qui sécurise l'accès aux données, bah, effectivement, ça vous ouvre beaucoup de données. Par contre, vous vous doutez bien que les impôts conservent tous les éléments personnels. Pourquoi ? Parce que les pensions alimentaires que vous versez, bien les sûr. Relations que vous entretenez, les gens avec qui que vous aidez financièrement, votre revenu, tout ça est apparu. Donc, évidemment, les impôts sont un élément à sécuriser en priorité.
Alors, ça nous amène à la question de François qui sera la dernière, via Europe1.fr, qui nous dit, est-ce que ce flicage qu'offrent ces nouvelles technologies, ça ne va pas inciter à fliquer femmes, enfants, bref, à être dans la suspicion permanente
et donc dans la peur. Alors, tous les outils qui existent, notamment pour, vous avez des petits logiciels qui permettent à mettre dans des téléphones portables et qui permettent de garder l'historique des déplacements avec une carte GPS, l'intégralité des communications, qui a appelé quand, pendant combien de temps, et l'historique des SMS. C'est vrai que ce sont les outils dont on rappelle la vente est licite, mais l'usage est-il licite ? C'est-à-dire qu'il faut que le titulaire du téléphone est censé être prévenu. Donc c'est pour ça que souvent leur argumentaire commercial, c'est pour les mineurs, les enfants, de manière à ce qu'on puisse les suivre, voire les personnes âgées atteintes d'Alzheimer, par exemple. Mais ce qui est certain, c'est que ça devient de plus en plus un élément qui se démocratise. On voit un nombre croissant de divorces de particuliers qui recherchent ces outils-là. Et donc, effectivement, il faut garder ça à l'esprit que oui, c'est possible de se faire pirater par un proche.
Nicolas Arpajan, deux petites questions, mais vraiment ultra rapides. Comment se fait-il que si on peut tous être fliqués comme ça toute la journée, ce qu'on se disait avec Anissa tout à l'heure, on ne peut pas attraper des terroristes ?
Parce qu'ils travaillent dans un univers rustique. Rustique, c'est quoi ? C'est quand vous
sans
n'utilisez
portable.
Pas de téléphone.
Enfin, y en
ou
a
alors
qui
vous avez des cartes. Vous avez des téléphones prépayés, c'est-à-dire que vous avez acheté anonymement, soit dans un marché noir en quelque sorte, soit vous payez en cash, vous vous déplacez en transport en commun et vous avez payé votre billet en espèces. Et donc, vous vous mettez à l'abri de ces systèmes, effectivement.
Et dernière question, ces mails qu'on reçoit, bonjour très cher, vous avez gagné 1 million d'euros.
Ne jamais y répondre. Et surtout, s'il y a un lien en dessous en vous disant, excusez-moi si vous n'êtes pas concerné ou voulez-vous vous désabonner si par exemple vous avez reçu un mail, ne répondez jamais, ne cliquez jamais sur le lien, désinscrivez-vous. Pourquoi ? Parce qu'au contraire, vous donnez le signal que votre boîte mail et votre compte, votre adresse email est valide puisqu'il y a un humain au bout qui a répondu. Et donc, elle monte en gamme, elle a encore plus de valeur chez les pirates. Et donc, surtout, vous jetez, vous détruisez et vous videz votre boîte, la corbeille de votre ordinateur.
Bien compris le message. Et puis, il y a Cédric qui nous dit aussi, Cyril Hanouna, écoute bien les sardines. Tout le monde le sait et personne ne lui dit rien. Christophe David, Capital, et ce dossier sur les nouveaux dangers du net est actuellement en kiosque. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Nicolas Arpajan, merci mille fois pour votre expertise. À très bientôt, j'espère. On se retrouve, nous, demain de 3 à 4. Il n'y en a pas deux comme elle pour répondre à cette question. Et pour vous, c'est quoi la France ? Une émission spéciale avec que des jeunes en studio qui nous diront comment ils voient ce pays, ce qu'ils en attendent, ce qu'ils veulent y faire, leurs craintes, leurs espoirs, leur indignation. Et on attend, bien sûr, votre avis, à vous aussi. D'ici là, je vous souhaite un très bon après-midi avec Cyril Hanouna.